L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette troisième émission en Gascogne, j'ai envie de vous présenter un endroit que je voulais découvrir depuis de nombreuses années parce que c'est ce genre d'endroit assez humble finalement, qui cherche pas à révolutionner le monde mais qui révolutionne bien l'environnement autour de lui, qui parle d'écologie de manière simple et pas trop dogmatique, plutôt amener les choses calmement, sereinement, scientifiquement. Et donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de la maison de la nature et de l'environnement. On est ici en fait à la rencontre, on est dans les Hautes-Pyrénées, mais on n'est pas très loin du Gers, on n'est pas très loin de la Haute-Garonne, dans un secteur très rural. Hein. Il n'y a pas trop de grandes villes à proximité, ce sont plutôt des zones rurales très fortement ancrées dans l'agriculture. L'agriculture intensive comme partout, hein, bien que c'est un secteur près des Pyrénées encore préservé avec beaucoup de haies bocagères, d'arbres et d'endroits plutôt agréables. Pour parler de cette maison de la nature et de l'environnement, je vous propose de rencontrer Héloïse Chanfray. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Alors toi ici tu t'occupes de la com tout simplement.
Oui, je m'occupe de la communication, mais également de l'organisation des événements et de l'organisation des séjours éducatifs avec les jeunes que l'on reçoit.
Alors cette maison de la nature et de l'environnement, si elle se retrouve ici, c'est pas vraiment un hasard?
Alors la maison de la nature a 30 ans, on a fêté ses 30 ans l'année dernière. Elle avait été pensée en raison du lac de Puy-Darieux, effectivement, en 95. Il y a eu l'idée de faire un projet autour du lac de Puy-Darieux. La mairie avait un bâtiment qui est maintenant la maison de la nature.
Une jolie maison de maître au calme,
tout à fait.
Ancienne.
Une belle bâtisse bigourdane. Et donc, ce projet de faire cette maison de la nature est liée donc au lac de Puy-Darieux. À la base, c'était plutôt sur les oiseaux. Et puis petit à petit, cette maison de la nature a diversifié ses activités. Et donc aujourd'hui, c'est une association d'éducation à l'environnement avec différentes missions.
Alors ce lac de Puy-Darieux, il faut en parler parce que c'est pas tout à fait un lac comme les autres. Et c'est en ça aussi que je trouve que j'avais envie de venir voir tout ça. C'est qu'en fait, on est sur un lac qui a été construit par l'homme. C'est un de ces nombreux et très nombreux lacs en Gascogne, justement, qui retient de l'eau en hiver, en général, pour la rendre en été pour les cultures. Donc ce sont ces fameux lacs des lacs d'irrigation qui sont parfois assez malmenés dans la presse, mais qui ici a amené de la biodiversité. Il a été construit quand ce lac ?
Alors je crois que le lac a été construit en 87, effectivement, pour donc irriguer les cultures. C'était un projet de lac d'irrigation. Et puis un hiver, ce lac était bas. Et en fait, comme le lac était bas, des oiseaux donc migratoires, notamment les grues, sont venus s'y poser. Et l'idée est venue de là, en fait, de faire en sorte que le niveau du lac en hiver soit bas pour permettre aux oiseaux de venir s'y poser.
Ça a créé à la fois de la biodiversité, finalement, en amenant une nouvelle faune et une possibilité de développement pour ce secteur rural vers l'animation, vers faire découvrir l'endroit autrement, une espèce de petite valeur touristique.
Voilà, où on parlera peut-être plus d'une valeur naturelle, quelque chose, en tout cas un site où plusieurs enjeux sont mêlés. Et effectivement, l'enjeu de la biodiversité est un enjeu fort autour de ce lac. Et le fait d'avoir une gestion de l'eau un peu différente fait en sorte qu'aujourd'hui encore, on a des grues qui viennent chaque hiver.
Donc c'est un lac qui a réussi à la fois à contenter les agriculteurs qui ont besoin d'arroser en été, parce qu'ici les étés peuvent être très secs, et à la fois amener de la biodiversité.
Un lac avec différents, enfin en tout cas qui permet d'avoir plusieurs compromis.
Alors c'est la commune, tu as dit, qui a voulu créer ce lieu. C'est elle qui vous finance, qui vous aide, parce qu'on est vraiment sur une petite commune rurale, là on n'est même pas sur un petit bourg. C'est elle qui supporte le poids de la maison de la nature et de l'environnement, parce qu'il y a combien de salariés ?
Alors, donc nous sommes effectivement sur la commune de Puy-Dary, une petite commune avec moins de 200 habitants. Le bâtiment appartient à la commune, mais nous avons plusieurs financeurs. Donc la commune nous soutient au quotidien, mais financièrement, il n'y a pas, ce n'est pas la seule, la seule entité. Nous sommes 11 salariés. Donc effectivement.
Ah oui, c'est quand même important.
Voilà, comme on a différentes missions, on a du coup une équipe salariée assez étoffée.
On va en parler de ces missions quand même, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc au départ, c'était les oiseaux, venir voir les oiseaux, et vous êtes développé sur d'autres trucs. Alors quelles sont vos différentes missions ? Raconte-moi.
Alors, on va se dire que la Maison de la Nature, elle a quatre grands pôles. Un pôle d'éducation à l'environnement, donc où là, on va dire, on cible tous les publics, même s'il y a une majorité de publics jeunes.
Alors, qu'est-ce que vous leur faites ? Alors, c'est les écoles du coin, essentiellement, et les comment on appelle ça, le truc pour les vacances, les centres de loisirs.
Oui, par exemple, les colonies, effectivement, les colonies de vacances. Donc, nous, effectivement, de la période d'avril à fin juin, on va accueillir des écoles en séjour éducatif ou à la journée, donc à la Maison de la Nature ou directement dans l'établissement.
Vous leur faites faire quoi ?
Alors, des animations sur différentes thématiques. Donc, pour vous en donner quelques exemples, on va avoir créé avec la nature. La biodiversité, effectivement, c'est notre thématique phare, avec en période pour aller au lac, observer des oiseaux. On va avoir aussi l'alimentation saine et durable. Nous avons des jardins comme support pédagogique. Donc les enfants comprennent directement de la graine à l'assiette, puisque comme ils séjournent directement à la MNE, ils peuvent en fait du coup déguster les légumes qu'ils voient au jardin.
Ça vous fait de la main-d'œuvre gratuite, non ?
Alors pas spécialement, ils vont plutôt effectivement comprendre le processus du légume par exemple. On part d'une graine et on finit à un légume. Ça sera plutôt sur ces aspects plutôt pédagogiques que travail au jardin.
Alors ça donne quoi ? Il y a des urbains, il y a des enfants des villes qui viennent ici ?
Oui, on reçoit vraiment toutes ces écoles, pas que du 65, on va recevoir des écoles du Gers, des écoles du 64. L'année dernière, on a eu une école des Landes, parfois on a même des écoles d'Ariège, du 31. Donc on rayonne quand même sur tous les départements limitrophes.
Ils viennent ici chercher une sensibilisation à l'environnement, à la découverte de la nature. Il y a aussi, je suppose, de la sensibilisation auprès des adultes.
Oui, tout à fait. On fait de la sensibilisation auprès des adultes. Donc, ça prendra la forme soit d'événements que l'on organise donc sur la MNE, soit d'animations, par exemple, au lac. Une fois par mois, on fait des balades au fil des saisons avec une thématique. Donc là, par exemple, samedi 18 avril, on va proposer une balade florale, parce que c'est la période des fleurs. Et en hiver, par exemple, ce sera plutôt une balade ornitho pour découvrir les oiseaux. Donc là, il y a de la sensibilisation auprès d'un public adulte. Ou bien aussi, on reçoit des groupes grâce à notre gîte. Et parfois, les gens qui séjournent au gîte demandent des animations autour de la nature. Et la sensibilisation, elle est faite automatiquement par notre gîte, puisqu'on propose une restauration avec des produits bio, locaux.
Mais vous avez aussi un cuisinier sur place ?
Et oui, dans l'équipe.
Ah oui, dans les 11, donc voilà, c'est pas tous des animateurs nature.
Non.
Il y a aussi, alors il y a quoi justement, c'est 11 personnes, on va le voir, il y en a combien qui sont dédiés à l'animation ?
Alors, nous avons une personne, donc c'est Pascal, qui est référente du pôle EDD, qui du coup se fait aider par Maud également, qui est aussi sur un autre programme Cartoc avec le pôle AP65.
Alors, c'est quoi là, tu as perdu tout le monde. Cartoc, c'est quoi ?
C'est un programme de cartographie qui permet de croiser des enjeux de biodiversité et d'érosion du sol pour en fait permettre ou en tout cas de convaincre des collectivités voir tout l'intérêt de planter des haies là où il y en avait et où il n'y en a plus et où il y a des forts enjeux de biodiv et d'érosion.
Alors qui c'est qu'il y a d'autres ? Qui c'est qui travaille d'autres ?
Alors après, donc sur le pôle EDD, effectivement, Pascal, avec Maud. Après, on va avoir le pôle arbres et paysages avec Anaïs, Aurélie. Bastien et Maud. Ensuite, sur le pôle accompagnement des territoires, on aura de nouveau Bastien.
Alors, c'est
Bastien...
quoi, accompagnement des territoires ?
Alors, ça va être effectivement le programme CARTOC, un autre programme, le programme OSER. Donc là, c'est aussi plutôt, c'est un peu comme CARTOC, mais c'est au plus au niveau de l'eau. Donc en fait voir par exemple autour d'une rivière déterminer qu'à certains endroits il est nécessaire de replanter des haies. Et donc Bastien du coup travaille en lien avec les syndicats de rivières. Donc c'est un programme d'accompagnement. Bastien qui est également animateur du site Natura 2000 puisqu'on a du lien donc avec le lac du Puy d'Arieux. Manon Deninger qui est notre directrice qui elle aussi accompagne les territoires dans une transition écologique. Et nous avons notre gîte donc de 57 lits qui permet d'accueillir donc des séjours éducatifs mais également des particuliers qui souhaitent se réunir.
Donc vous vivez à la fois de subventions et à la fois d'une activité économique.
Tout à fait, cet autofinancement nous permet donc d'avoir un financement supplémentaire.
Sinon les financeurs publics, c'est le département, la région ?
Donc effectivement, on aura la DREAL.
Donc DREAL, c'est au niveau régional, ça dépend de l'État, c'est ça, hein, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Okay.
La région Occitanie, le département des Hautes-Pyrénées, l'agence de l'eau Adour-Garonne. Nous aurons également la fondation EDF. La commune de
Puy-d'Arieux. Parce que le lac qui irrigue les agriculteurs, il fait un peu d'électricité aussi ?
Alors, la fondation EDF, c'est un mécénat, en fait. Du coup, c'est plutôt en lien avec le projet d'éducation à l'environnement de manière globale auprès des jeunes.
Pas d'électricité ici.
Pas d'électricité. Donc voilà nos principaux financeurs. Après, effectivement, en fonction des programmes que l'on mène, on aura d'autres financeurs qui s'y ajoutent.
Alors nous voilà, nous sommes toujours pour cette émission en Gascogne, à la Maison de la Nature et de l'Environnement des Hautes-Pyrénées. Bien qu'on soit un petit bout des Hautes-Pyrénées, il ne faut pas imaginer qu'on est là dans les montagnes, on est plutôt sur la partie Gascogne des Hautes-Pyrénées. On est près du Gers, on est près de la Haute-Garonne, on est vraiment dans une zone extrêmement rurale avec très peu de tourisme. Et c'est ça qui est intéressant dans cette zone rurale, vous amener un peu d'activité justement tertiaire, on va dire, un peu de loisirs et de loisirs éducatifs. C'est ça qui est intéressant. On est toujours donc pour en parler avec Héloïse Chanfray, qui s'occupe de la communication de cette Maison de la Nature et de l'Environnement. On a vu un petit peu en première partie des missions, vos missions. On l'a vu en particulier au travers des missions des 11 salariés qui travaillent ici. On a vu comment vous étiez financé. Ça peut donner des idées comme ça, si on veut créer dans son petit bout de campagne, un peu partout, on peut voir un modèle économique qui peut fonctionner et qui peut amener de l'activité, des projets écologiques concrets, parce que c'est ça que j'aime bien. On va faire une petite émission après avec ta collègue qui s'occupe de la plantation des arbres et des haies. On voit que vraiment c'est de l'écologie, on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour travailler et améliorer les choses, et c'est ça que je trouve vraiment chouette chez vous. On va vous découvrir un peu plus aussi en parlant des événements. Moi, j'avais toujours rêvé de venir vous voir en plein hiver et puis jamais j'ai pu le faire parce que ça fait longtemps que je voulais découvrir cet endroit. En hiver, il y a les hivernales et c'est ça qui est chouette ici. On l'a vu, ça s'est créé autour des oiseaux et les hivernales, ben, c'est autour des oiseaux. Explique-nous un petit peu en quoi consiste cet événement qui ramène lui aussi, on a parlé un peu des financements en début d'émission, qui je suppose lui aussi amène des financements, de la visibilité et du sens à votre travail.
Oui, les hivernales, alors c'est notre événement phare de l'année. C'est un festival qui a 30 ans. Lui également, première édition en 96. Donc c'est toujours le dernier week-end de janvier. Il a lieu sur 2 jours et demi, on va dire. Une première journée donc où on ouvre ce festival donc aux enfants. Donc peut-être pour effectivement resituer ce festival, c'est un festival nature-environnement qui a but de traiter de différents sujets sur l'environnement sous différentes formes, puisqu'on va y aborder des conférences. Il y a 6 conférences sur le week-end, des ateliers, des sorties, un espace jeunesse. On va également proposer des films, des expositions.
Ah oui, c'est pas juste aller voir les oiseaux, voir les grues sur le lac. C'est tout un tas d'animations. Alors c'est quoi par exemple les films? Tu dis qu'il y a des films, ça va être quoi la thématique?
Alors chaque année effectivement, alors on essaye de déterminer quelques thématiques. Alors cette année, pour l'édition 2026, en janvier 2026, on avait axé notre festival sur les solutions fondées sur la nature. Bah, par exemple, on a diffusé le film Le vivant qui se défend. Donc voilà, donc différents films. Donc c'est un festival qui est pour un public averti, mais pas que, parce que c'est possibilité de voir différents sujets sous différents formats. Donc chacun y trouve un peu son compte.
Donc si... En 2026, vous avez un thème? En 2027, du coup, janvier 2027?
Et non, pas encore. On commencera à penser ce thème, à partir de l'été.
Alors ce festival, il amène du monde sur le site?
Donc oui, il a lieu donc pendant 2 jours et demi. Donc c'est à partir du vendredi, donc première journée pour les enfants. On fait appel en fait à différentes écoles qui souhaiteraient venir à la journée pour faire des animations. Le vendredi soir, on propose une soirée un peu atypique. Donc cette année, c'était un spectacle d'improvisation sur des sujets nature. Avec la compagnie La Belle Boîte, une très belle compagnie. Et ensuite, le samedi et le dimanche, s'enchaînent donc des conférences, animations, sorties, films, possibilité d'aller au lac également pour donc faire de l'observation pour les oiseaux, puisque à ce moment-là, il y a des grues. Et le samedi soir, il y a toujours une soirée, un repas avec un concert.
Et c'est des gens qui viennent de l'extérieur? Vous amenez sur votre territoire rural des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent des villes proches, ou c'est uniquement la population locale?
Ce ne sera pas spécialement la population locale. Effectivement, il y a des gens qui viennent d'assez loin. Des gens qui viennent, on sait qu'il y a un couple qui vient chaque année de Dordogne. Il y a des gens du 64 qui viennent pour l'événement.
Et, 64, c'est les Pyrénées-Atlantiques.
Et en plus, on peut les loger puisque la formule permet de se loger sur place.
D'autres animations, là on est au printemps, donc ça c'est au mois de janvier, et le reste de l'année, il y a des événements aussi que vous faites?
Oui, il y a un événement d'ailleurs, il approche, c'est le troc de graines et de plants qui a lieu donc là le samedi 18 avril. C'est un après-midi autour du jardin, donc on va y troquer graines et plants. Donc tout le monde est invité à venir avec ses semences, ses plants, ses graines.
Alors là, c'est plutôt pour des jardiniers, quoi? Jardiniers potagers ou jardiniers d'ornement? Les deux?
Les deux, même des novices ou des gens qui finalement veulent juste venir discuter, partager des conseils ou s'initier au jardin.
Donc là, ça va être plutôt une population locale. Vous allez permettre aux gens de se rencontrer, ça crée du lien social et de l'entraide entre jardiniers.
Voilà, c'est ça, des gens qui habitent pas très loin. Après, je sais qu'il y a des gens, par exemple, de Bagnères qui viennent pour l'occasion.
Oui, c'est pas très très loin, c'est quoi, 40 km?
Oui, mais bon, il faut 45 minutes pour venir, donc. Voilà, et lors de cette journée, on propose aussi des animations, donc toujours en lien avec le jardin, enfin le jardin, j'entends par potager. On va du coup proposer un atelier de vannerie, vannerie pour faire par exemple une suspension pour une plante. On va faire un atelier, il y aura un stand, une initiation sur l'herboristerie. On va faire une balade florale également avec ma collègue Pascal, une balade sur les jardins. Et il y aura, on essaye aussi de faire du lien avec des associations locales. Donc là, par exemple, il y a la microbiblie de la Garousse.
D'accord, c'est
Qui
quoi?
sera présente.
C'est
Donc,
quoi la microbiblie de la Garousse?
donc la Garouste, effectivement, c'est un lieu associatif qui, du coup, a développé une bibliothèque itinérante. Et donc, pour l'occasion, on leur a demandé de venir pour le troc de graines. Donc, ce sera un après-midi autour du jardin et de la lecture.
Ok. Et tout ça permet. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très grand public. On n'est pas fermé sur son petit monde écolo. Mais vous avancez quand même pas mal de choses. C'est quoi les messages que vous essayez de passer aux petits, aux grands? C'est quoi la grande idée, le fil conducteur de tout ça?
Eh bien, c'est, je pense, d'ouvrir les yeux et on va dire, de prendre, d'être sur des valeurs autour de la nature, de respecter cette nature, voilà, d'être humble. Je crois que vous en avez parlé un peu sur le début de la présentation de l'asso. Voilà, c'est se dire que cette nature, elle est là, il faut en prendre soin. Et comment en prendre soin? Voilà, ça fait partie de l'éducation. Des plus jeunes. Voilà, on est dans cette phase. On est dans l'éducation autour de la nature, autour de.
De la découverte de la nature. Mais j'aime bien ce que tu me dis, ouvrir les yeux. C'est-à-dire souvent les gens passent à côté de la nature. Alors sur de la biodiversité assez commune, on va passer à côté, on va pas lui trouver d'intérêt. Et parfois ouvrir les yeux sur l'intérêt d'une plante qui va paraître comme une mauvaise herbe peut être intéressant. On peut voir qu'il y a des aromatiques là-dedans, qu'il y a des plantes comestibles, qu'il y a ce genre de choses. J'ai envie de finir rapidement d'aller voir votre potager. Tu me montres
Ok,
ça
ça marche.
parce que voilà, c'est bien de parler, mais c'est aussi de voir ce que vous faites exactement. On va voir, c'est juste à côté de cette donc belle maison. Hein.
Donc on a deux potagers, enfin on a un
Comment fait? On
potager,
a deux potagers.
on a deux potagers. Donc un premier c'est plutôt bah, du coup le potager légumes, hein, et un autre où on l'appellera le jardin des cinq sens.
D'accord.
Donc c'est effectivement plutôt un jardin où on va y cultiver des plantes aromatiques, voilà, et ça permet effectivement de faire des animations sur bah, l'essence et très intéressant pour les enfants.
Beaucoup de pissenlits là pour
Beaucoup de pissenlits. Donc on essaye aussi à la Maison de la Nature d'avoir de la gestion différenciée des espaces extérieurs, c'est-à-dire de laisser la végétation aussi pousser pour que les plantes puissent faire leur cycle et permettre aussi à tous ces insectes de pouvoir vivre. Donc voilà, on applique cette gestion différenciée au fil de l'année.
Et on voit aussi des échappées du jardin, donc la bourrache,
Tout à fait.
hein, qui est excellente pour les pollinisateurs. On voit d'ailleurs, il y a des abeilles dessus. Donc ouais, ce sont des planches. Alors c'est rigolo parce que ce ne sont pas des carrés. Vous avez fait ça, c'est une forme plutôt organique. Hein, c'est des jardins sur planches. Et là, on voit plein d'aromatiques. Mais il y a quand même des poireaux, on voit quelques légumes aussi. Bon, on est au tout début du printemps, je
Oui,
suppose
c'est
que vous
ça.
n'avez pas encore planté.
Non, ma collègue, donc du coup, vers le jardin du potager, a commencé à faire donc ses semis, bien sûr. D'ailleurs, il y a un atelier samedi sur les semis. Donc non, pour le moment, on n'est pas encore tout de suite dans la plantation.
On voit dans le bout du jardin un hôtel à insectes. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt, l'hôtel à insectes, quand on a, comme vous, parce que il faut le dire, ce jardin est entouré évidemment de haies, hein, puisque vous aimez planter des arbres, vous en avez planté, vous êtes fait vous-même, vous avez planté aussi des arbres. C'est vraiment important d'avoir un hôtel à insectes, même quand on a une biodiversité qui est bonne autour de soi et un peu de pagaille et de bois mort par terre.
Donc je pense que cet hôtel à insectes avait été conçu, en tout cas mis à cet endroit pour donner à voir en fait sur
Ok.
cet outil.
L'intérêt, comment ça fonctionne?
L'intérêt, bah, c'est permettre en fait de donner des abris à des insectes pour qu'ils puissent venir et après polliniser autour de l'abri, enfin de l'hôtel à insectes. Après, effectivement, dans cet espace-là, il a peut-être moins de portée qu'un hôtel à insectes sur un endroit qui n'aurait pas de
Urbanisé.
végétation. Tout à fait.
Donc là, on voit aussi un truc assez rigolo, c'est-à-dire qu'on a plusieurs trous alors entourés de bois, c'est très très joli, hein. Le premier avait des gros cailloux, le deuxième avait des rondins de bois, le troisième avec du gravier très fin, un petit peu de bois et le dernier de la terre, c'est ça? Alors c'est quoi là? C'est pour sentir les choses avec les pieds, il faut se bander les yeux et dire sur quoi on marche?
Alors c'est un peu le concept, effectivement. On l'appellera le sentier pieds nus. C'est un sentier qui est fait pour de l'animation avec les très très petits.
D'accord.
Voilà, et c'est la découverte donc du coup bah des pieds, des sensations que l'on peut avoir avec différents matériaux.
Alors on voit au passage hein, que vous avez mis des petits panneaux aussi à côté des arbres hein, pour donner leur nom déjà, pour comprendre et à quoi ils servent. Ok, donc là c'est l'érable champêtre qui servait, il était utilisé autrefois en sculpture et menuiserie. Ses racines étaient réservées à la fabrication de pipes. Ben voilà,
Et voilà.
on apprend des choses. Et là on arrive rapidement donc sous
Sur
une...
le jardin, donc le
Ah, sur le jardin
potager.
potager. Alors, on a une serre dans laquelle il y a eu des plantations, un petit
Alors là,
peu.
c'est une jauge pour des arbres. Donc effectivement, avec le pôle
D'accord.
arbres et paysages, on réceptionne des plants qui vont être ensuite livrés ou en tout cas réceptionnés sur place. Et en attendant, ils sont mis donc dans cette jauge.
Et là, bah, disons, c'est un potager avec. C'est là qu'il y a le plus d'oiseaux.
Oui, donc là effectivement vous avez l'espace qui va accueillir donc les prochaines cultures et une petite serre qui vont accueillir également donc les semis. Là il y aura des semis de tomates. Donc
Alors pour l'instant, avant les plantations, vous avez mis des bâches
voilà.
agricoles de récupération partout.
C'est ça. En fait, là, c'est pour du coup permettre de tasser en fait cet engrais vert qui a été mis pendant l'hiver pour qu'ensuite ma collègue puisse travailler le
Ah,
sol.
c'est-à-dire vous aviez planté là, c'était il y avait des plantes qui amènent de l'azote, c'est
Voilà.
ça?
Et du coup, là, le fait de les bâcher, ça va les épuiser et du coup, ça sera plus simple. Donc là, pour Aurélie qui travaille au jardin, de pouvoir travailler sa terre et ensuite pouvoir planter ses futurs plants.
Oui, c'est ça. Et les plantes vont restituer l'azote qu'elles ont pris dans l'air sur le sol qui va permettre de faire pousser les plantes cet été sans mettre de l'engrais azoté qui
C'est ça.
pose des soucis tant pour la production que pour la pollution qu'il induit.
Voilà, c'est nourrir son sol, c'est en prendre soin pour qu'il puisse nous donner de bons légumes.
Super, vous en faites quoi des légumes ici? Vous les mangez dans le gîte, c'est ça?
Et oui, parce que effectivement, ce jardin est conçu comme un support pédagogique, mais jardin dit légumes, et ces légumes, eh ben, on les utilise, on les valorise au sein de notre gîte. Donc c'est Lisa, notre cuisinière, qui va les cuisiner et les proposer donc aux petits, par exemple, pendant les séjours éducatifs, ou bien pour donc des particuliers qui viennent passer le week-end en groupe au gîte. On est dans du circuit très très court.
Bah écoute, je te remercie. Alors on n'aura pas vu le lac parce qu'en fait la maison s'est construite pour le lac, mais le lac on ne le voit pas depuis la maison de la nature et de l'environnement. Mais je vous invite à venir le découvrir. Donc pendant les hivernales, si vous voulez voir des grues cendrées, c'est ça, ou à n'importe quel autre moment, il peut y avoir donc des visites, des animations, des séjours dans cette maison de la nature et de l'environnement des Hautes-Pyrénées. On va faire une deuxième émission pour voir cette histoire de plantation, puisque vous habitez, donc vous avez un pôle, c'est arbres et paysages. Donc on va parler de ça la semaine prochaine. Et ça, c'est, vous allez voir, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et qui change le monde à petite échelle, de manière humble, comme vous faites ici, mais de manière très efficace. Merci. Un petit mot de la fin pour les auditeurs, Héloïse?
Tout simplement, ouvrir les yeux autour de soi pour prendre soin de ce qui nous entoure.
Merci beaucoup, Héloïse. Au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.